Geography, Grand Témoin.
Président de la Fédération des industriels du bois et président du conseil de gestion de la Société Parc Afrique, Florentin Kagué Mwangita est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Florentin Kagué, soyez le bienvenu.
Merci.
Comment allez-vous?
Oh, très bien.
Vous avez une grande expérience dans le domaine de la forêt et du bois en RDC. Nous allons en parler au cours de l'émission. Commençons par cette étude de la FAO publiée en 2007 et portant sur intégrer les questions de genre dans le secteur forestier en Afrique qui se penche sur la RDC. Ce rapport renseigne que les forêts de la RDC couvrent une superficie de près de 135 millions d'hectares dont la majorité est constituée de forêts denses humides. Elle occupe 58% de l'espace du territoire national, deuxième étendue forestière du monde tropical après le Brésil. La RDC abrite 60% des forêts du bassin du Congo, 37% des forêts du continent africain et près de 7% des forêts humides tropicales du monde. À cet égard, les forêts de la RDC représentent l'un des plus importants pôles de diversité biologique en Afrique et dans le monde, et plus de la moitié du deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. C'est une très riche présentation, hein, Florentin Kagué. Mais pourquoi la RDC ne profite-t-elle pas de cette richesse scandaleuse?
Parce que justement, la RDC n'a pas encore fait un bon inventaire de l'ensemble des ressources en son sein. Et il ne s'agit pas seulement de la forêt qui n'est pas, à mon sens, aujourd'hui capitalisée pour assurer la richesse de ce pays, mais il y a aussi beaucoup d'autres ressources qui ne sont pas malheureusement exploitées ou bien connues dans le pays et qui font que nous sommes en train de nous asseoir sur de l'or sans savoir qu'on était sur l'or.
Pouvez-vous nous dresser un bref historique de l'exploitation forestière au Congo?
Disons que l'exploitation forestière au Congo, de manière assez lapidaire, existe. Elle a commencé plus dans les Bas-Congo. Pour le moment, cette forêt a été suffisamment, on peut même dire, un peu surexploitée à cause de sa position par rapport à la mer. Et aujourd'hui, de plus en plus, on commence à penser à arrêter l'exploitation ou à réduire l'exploitation de ce coin-là pour remonter un peu vers les provinces du nord du Bandundu, la province de l'Équateur et la province orientale où la ressource est encore abondante.
Quel est l'état des lieux du secteur forestier congolais aujourd'hui?
Bon, l'état des lieux, c'est dire que vers les années 80, il y avait au moins plus de 150 sociétés forestières, je parle bien des sociétés. Et aujourd'hui, on est réduit à une vingtaine de sociétés. Évidemment, quand on considère les gens qui ont de ce que j'appelle les garanties d'approvisionnement, on a presque 151 personnes ou sociétés qui sont répertoriées. Mais les sociétés qui sont aujourd'hui, je vais dire les grandes sociétés qui répondent aux normes maintenant d'exploitation, il n'y a pas plus d'une vingtaine, quoi. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés, ils sont peut-être les mêmes, ce que le problème auxquels sont confrontés tous les investisseurs ici dans notre pays. Il y a des problèmes qui sont liés à la législation, c'est-à-dire que si je vais parler de la législation fiscale avec des tonnes de taxes, mais il y a aussi d'autres problèmes qui sont liés évidemment aux infrastructures, parce que vous savez que l'exploitation forestière est très demandeur de transport, c'est-à-dire qu'il faut évacuer le bois du lieu d'exploitation vers les zones de consommation ou de transformation, pourquoi pas les zones d'exportation. Et il y a des longues distances à parcourir et sur des tronçons où soit les routes ne sont pas entretenues, soit le fleuve n'a pas été dragué ou balisé durant de longues années.
Quelle est la participation du secteur forestier à l'économie nationale?
Bon, la participation du secteur forestier à l'économie nationale, c'est une question que les gens posent assez abondamment, mais je crois que cette participation, il faut un peu l'avoir sous plusieurs angles. Il faut voir cette participation basable sur l'angle social parce que le secteur forestier, c'est un des secteurs qui emploie le plus grand nombre de travailleurs. De ce côté-là, je crois que c'est un des secteurs qui offre des perspectives importantes d'emploi parce que on pense que si ce secteur démarre complètement et si l'exploitation s'est faite à son niveau optimum, on peut arriver à occuper plus de 15 000 et pourquoi pas aller jusqu'à des niveaux de 150 000 travailleurs, quoi. Et ça, je crois que c'est des perspectives qui peuvent être atteintes si toute une politique est mise en place de façon à favoriser cette exploitation. Alors ça, c'est sur le plan de la main d'œuvre, mais sur le plan social, je crois que beaucoup de choses sont faites parce que il ne faut pas oublier que c'est le secteur qui contribue au développement du milieu reculé. encore avec la construction des écoles, la fourniture des bancs dans les écoles, mais aussi avec aujourd'hui le désenclavement que nous créons par rapport à ces milieux-là, sur le plan social, je crois qu'il y a une contribution évidente dont on ne peut souffrir d'aucun doute. Sur le plan économique, c'est-à-dire que dans la réalisation, par exemple, de certaines infrastructures, le secteur a pu déjà construire jusqu'à au total près de 1913 km de route de dessertes agricoles. Si vous considérez le coût d'un kilomètre de route, donc vous voyez vous-même qu'il y a quand même, sur ce plan-là, un impact.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Florentin Kagemonvita, nous le disions dans la présentation, vous êtes président de la Fédération des industriels du bois et président du conseil de gestion de la société Parc Afrique. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le secteur du bois?
Comme ce qui peut attirer tout opérateur économique, tout homme d'affaires, vous savez que c'est une ressource que nous avons dans le pays qui n'était pas suffisamment exploitée, mais qui permettait éventuellement de se créer peut-être un profit, s'il faut le dire entre guillemets. Et c'est des raisons pour tout opérateur. Je crois que lorsqu'il veut exploiter dans un secteur, il voit d'abord l'élément profit, s'il peut gagner là-dedans. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je pense aussi qu'au-delà de cet aspect de profit, nous avons vu aussi la possibilité, évidemment, de donner de l'emploi à des compatriotes et aussi de s'investir dans le développement du pays.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce secteur?
Disons, dans le secteur du bois, on est depuis la fin des années 80. Ça fait bien une vingtaine d'années maintenant qu'on est dans ce secteur.
Êtes-vous né dans une région forestière?
Personnellement, non. Parce que si on parle de province, oui. Parce que je viens de la province de Bandundu. Mais il faut dire que de mon territoire d'origine, c'est une savane herbeuse. Donc, nous n'avons pas suffisamment
de liens directs avec la forêt.
La forêt, on a très peu de forêt chez nous, ce sont des petites galeries qu'on a là-bas. La forêt, au vrai sens du terme, parce que parfois, beaucoup de gens parlent de la forêt sans la connaître, mais la vraie forêt, il faut l'avoir, par exemple, dans les provinces de l'Équateur, la province orientale, un peu dans le nord de Bandundu. Quand vous parlez de la forêt, c'est là où vous voyez vraiment la véritable forêt. Ce que j'avais tendance à voir dans mon enfance, que je considérais comme forêt, en réalité,
n'était pas comme
une mesure avec ce que je vois maintenant comme forêt.
En quelle année vous voyez le jour et où?
Je vois le jour vers la fin des années 1950, un certain 23 novembre, dans une mission catholique à Tchi. Et des parents enseignants, parce que mon père était enseignant et dans une mission, et j'ai eu le privilège d'être le fils d'un des, je crois que parmi les premiers directeurs d'école primaire de ce pays, parce que c'est déjà avant l'indépendance que mon père devient directeur, parce que il a eu la chance d'être coopté rapidement par des missionnaires à cette époque-là, avant même que l'indépendance ne soit annoncée. Et cela m'a permis évidemment d'aller faire les écoles primaires au-delà de ma mission de naissance, mais à Kinzambi, avec les frères Josephites. C'est là où j'ai commencé mon école primaire, et je pense que quand je parle de ma formation, je me rappelle beaucoup plus cette formation-là, parce que franchement, c'est cette base-là, cette fondation qui a été, à mon sens, très solide dans toute l'évolution de ma formation.
Quel genre d'enfant étiez-vous?
Je ne dois pas dire que j'étais un enfant facile, parce que peut-être bénéficiant du fait que mes parents étaient quand même à cette époque-là privilégiés, je vais vous dire une chose, c'est cela qui explique par moments la compréhension que j'ai de l'attitude des enseignants. J'étais le fils d'un enseignant, mais mon père avait une voiture, il avait une scooter, il avait un ranch de plus de 200 bêtes. C'était vraiment un nanti de l'époque, enseignant qu'il était. Alors moi je me dis que quand j'ai fait un peu le rapport avec la situation des enseignants maintenant, je me dis que franchement,
il y a un fossé.
Un gros fossé, parce que mon père, avec son revenu, il m'a permis, et même à beaucoup d'autres de mes frères, aller étudier dans ce qui avait de meilleures écoles à l'époque. et aussi loin dans un internat où nous avions évidemment une formation métropolitaine parce que nous étions branchés sur le programme belge, déjà à l'école primaire, contrairement au programme national qui s'est donné dans d'autres écoles dans les pays. Je pense que c'était tous les mérites de cette formation qui nous a permis évidemment aujourd'hui de nous distinguer dans la suite par rapport à notre formation et qui a suivi quoi.
Les études secondaires et universitaires, c'est où que vous les faites?
Les études secondaires, je les ai continuées toujours chez les missionnaires, plus à Kinzambi, mais à l'Institut Saint-Augustin, à Gungu, une école toujours des prêtres, où je fais des humanités pédagogiques, parce que je voulais au départ aussi enseigner, venir enseigner comme mon père, parce que vous savez, pour chaque enfant, son père est souvent le modèle. Je voulais bien devenir enseignant, ça était toujours mon ambition, mais je dois dire que c'est un accident de l'histoire que finalement, au niveau supérieur, j'ai fait l'essence sociale pour m'intéresser beaucoup plus aux aspects économiques.
Dans quelle université?
À l'INASA, à l'époque, j'étais d'abord à l'Institut supérieur d'essence sociale à Bukavu, avant de finalement aller vers d'autres universités.
La sixième édition du Doing Business, publiée le jeudi 11 septembre dernier par la Banque mondiale et la Société financière internationale, dresse le classement de 181 pays où il fait plus ou moins bon entreprendre. Les trois dernières places sont occupées par la Guinée-Bissau, la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Explication de Adamou Labara, représentant résident de la Société financière internationale en RDC. Ses propos sont recueillis par Nazer Nkoko.
La cause principale, c'est qu'il n'y a pas eu de réforme majeure entre le 1er juin de l'année dernière et le 1er juin 2008. Cependant, il y a un engagement de l'État, du gouvernement, à faire des réformes. Il y a eu un début en août 2008 au niveau de l'enregistrement des entreprises. Mais l'impact négatif, c'est d'abord au niveau des PME. C'est pas au niveau des grosses entreprises qui viendraient investir en RDC. Parce que la plupart, elles peuvent attendre un an, deux ans pour faire tout le processus de création. Par contre, la PME, elle ne peut pas se payer ce luxe. Elle n'a pas les ressources nécessaires. Donc, il lui faut des procédures qui soient assez simples. Pourquoi réformer? Il faut réformer parce que ça pénalise en premier lieu les petites et moyennes entreprises. La clé de route de toute croissance économique, quand on parle de croissance, de création d'emplois, c'est essentiellement les PME.
Florentin Kagé, décidément, il n'est pas facile d'investir en RDC. Hein. Comment réagissez-vous à ces propos?
Bon, je crois qu'il y a des considérations qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas que l'on oublie que la bonne évolution, la bonne explosion des PME résulte évidemment d'une installation, d'une création de grosses industries, parce que c'est elle qui donne évidemment de la matière aux PME. Je crois qu'il faut travailler là-dessus. Mais le pays, évidemment, doit améliorer son taux d'attractivité, s'il faut dire ça ainsi. Et il y a des efforts à faire. Nous avons suffisamment de ressources. Nous pensons que nous pouvons attirer des investissements, mais nous devons mettre des cadres. Il faut créer l'environnement qui puisse attirer des investisseurs. Et à mon sens, je pensais que au-delà de la sécurité juridique sur laquelle on s'est employé à mettre en place par une série de textes, il faut aussi assurer la sécurité judiciaire, parce que c'est très important. Et là, à mon sens, on ne s'est pas suffisamment apesanti. Le chef d'État appelle cela assez souvent dans ses discours. Mais c'est au niveau des suivis que ça pose problème. Je crois que nous devons absolument penser et nous apesantir sur une bonne distribution de la justice, parce que quelqu'un qui veut investir dans un pays, il se préoccupe évidemment de cette sécurité judiciaire, c'est-à-dire la manière dont la justice est rendue dans un pays, parce que vous pouvez perdre tout votre investissement par une mauvaise décision judiciaire.
Exactement.
Et les gens savent exactement comment se comporte la justice dans notre pays. Et je suis de ceux qui pensent que notre pays devrait ratifier les accords de l'OADA et de façon à ce que ça puisse rassurer davantage les investisseurs, de sorte que si la justice nationale ne peut pas aujourd'hui répondre positivement aux attentes d'un investisseur, il peut recourir à une justice internationale. C'est une garantie supplémentaire par rapport à la sécurité judiciaire qui, à mon sens, est indispensable pour attirer les investissements.
Revenons un peu à l'aspect lié aux taxes. Vous en parliez déjà un peu au début. Avez-vous une idée sur le nombre de taxes que paie un opérateur dans ce secteur?
Disons, dans le secteur du bois, on était à 173 taxes.
Ah bon?
Alors, quand je vous dis que il y a des États ou des pays qui ont réduit fortement leurs taxes, par exemple, je vous dirais, vers les années, je pense, 2004, si je ne me trompe pas, un pays comme le Dubaï, la rente pétrolière ou le revenu pétrolier intervenait à presque 90% dans le budget de l'État. Et lorsqu'ils ont introduit une réforme de leur fiscalité pour se réduire tout simplement une seule taxe qui était de 3% sur toute activité, le revenu pétrolier n'intervenait plus qu'à 45% dans les choses. Donc ça dit qu'il y a une baisse, ça dit que maintenant ce sont d'autres secteurs qui ont rapporté plus par rapport au budget. Donc je pense que si aujourd'hui nous entrevoyons de bonnes réformes par rapport à la fiscalité, le pays peut engager à mon sens beaucoup plus de ressources, parce qu'aujourd'hui toutes ces taxes éparpillées qui deviennent parfois difficilement contrôlables profitent à quelques percepteurs et non pas à l'État lui-même. Alors moi je crois qu'il faut absolument assainir ce domaine. Nous devons arrêter de nous endormir sur un ensemble de considérations qui atterrissent de l'extérieur de manière parfois insolente. Et je crois que tous ces ateliers, renforcement des capacités, les Congolais connaissent mieux la réalité de leur pays, ils savent mieux la lire, parce que lire par d'autres avec leurs lunettes, je crois qu'ils n'en ont pas la même compréhension.
L'interprétation n'est pas toujours la même.
Exactement. Donc moi je crois que aujourd'hui nous devions nous asseoir autour d'une table, ça a déjà été fait dernièrement avec la table ronde qui s'est tenue au Grand Hôtel. Il faut que ces résolutions qui ont été prises soient d'application, parce que moi je pense que nous devons aller vite. Aujourd'hui nous devons mettre le boucher double, parce que nous avons pris un grand retard par rapport aux autres États et nous n'avons plus rien à inventer. Il y a des choses que nous pouvons tout simplement regarder chez les autres, j'essaie d'adapter par rapport à nos réalités pour nous permettre de rattraper notre retard et évidemment et nous mettre au diapason des nations qui, à mon sens, sont en voie de développement.
En rapport avec la législation, pensez-vous que le code forestier congolais soit adapté aux réalités congolaises?
Non, je mentirais si je disais que le code forestier est adapté aux réalités congolaises, parce que j'étais de ceux qui, par moments, ont eu des mots très durs par rapport à ce code. Je suis allé parfois même jusqu'à dire que c'était un clonage. C'est vrai, parce que dans la mesure où aujourd'hui, dans l'application, ce code n'est pas encore d'application, parce que un certain nombre de préalables qu'il exige ne sont pas encore réalisés. Je crois que il faut mettre un peu derrière nous un peu toutes ces considérations-là pour considérer aujourd'hui que l'essentiel, c'est une loi qui peut nous permettre évidemment de faire quelques pas en avant si évidemment on peut tous regarder les choses dans le même sens, regarder dans les mêmes objectifs et je crois que c'est le plus important. Il est difficile aujourd'hui d'avoir une législation qui soit complètement bonne, parce que les lois ont toujours parfois leurs faiblesses, donc il faut aujourd'hui essayer de corriger les faiblesses et aller de l'avant.
Radio Capine, grand témoin.
Florentin Kagé-Mwanzita, président de la Fédération des industriels du bois, 46 titres forestiers sur 156 ont été jugés convertibles en contrats de concession forestière. C'est la conclusion du rapport sur les travaux de conversion de titres forestiers présenté le lundi 6 octobre dernier à l'hôtel Vénus. Pour José Ndundu, ministre de l'Environnement, ces travaux constituent un grand pas de notre pays dans l'assainissement du secteur et dans la conservation de sa riche biodiversité. José Ndundu, ministre de l'Environnement, fait l'économie de ce rapport au micro de René Capita.
On établit des règles qui permettent une gestion durable. Qu'est-ce qui se passait aujourd'hui? Il y avait des exploitants forestiers qui se disaient « j'ai un contrat qui demain peut sauter ». Il n'y avait pas de sécurité juridique. Désormais, il y a une sécurité juridique. Et si vous avez une sécurité juridique, vous travaillez dans la durée, vous ne travaillez pas à coup de destruction, vous travaillez avec un plan d'aménagement en tenant compte du zonage qui doit se faire. Lorsque vous avez une forêt sur 25 ans, vous savez que vous pouvez revenir 25 ans après, sur la première portion que vous avez exploitée, et vous trouverez que l'arbre a repoussé. Donc, c'est une gestion où on tient compte du renouvellement de la forêt, qui est un organisme vivant. Après cette phase, vont maintenant s'appliquer des mesures qui assureront le contrôle, la qualification et la certification du bois congolais. Aujourd'hui, il est quasi impossible de savoir exactement ce que nous exportons. Nous allons, dès le site de production, essayer de voir, d'analyser et de comprendre ce qui se passe dans l'exploitation forestière. Et bien entendu, à l'exportation de ce bois, qu'est-ce qu'il y a comme retombée pour l'État congolais, pour les provinces, comme vous le savez. Donc tout cela fait partie d'une vraie stratégie dont on verra progressivement les fruits au cours de l'année prochaine.
Vous parliez tantôt, Florentin Kagé, de la sécurité judiciaire. Vous êtes servi, hein?
Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à un chapelet de bonnes intentions. Il faut aller au-delà, parce que je comprends, il y a beaucoup de discours et de langages que nous tenons, évidemment, dans nos bureaux. Sur le terrain, la réalité se présente autrement. Je suis de ceux qui pensent qu'il fallait se donner le temps au temps pour que ces choses se mettent en place, parce que vous savez, on parle du plan d'aménagement, mais pour réaliser des plans d'aménagement dans les cadres des forêts congolaises, parce que vous savez, nos forêts ont une certaine particularité dans la mesure où il faut des grandes superficies pour espérer réaliser un plan d'aménagement convenable. Et à mon sens, aujourd'hui, avec la taxe de superficie qui est fortement élevée, ces choses deviennent assez difficiles. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il fallait avoir une approche beaucoup plus conséquente de cette politique-là. Et ici, on va avec beaucoup de choses dans la précipitation, sous la pression, évidemment, des bailleurs à l'extérieur. Et les gens ont besoin d'argent, évidemment, pour bien se faire voir. Ils acceptent un certain nombre d'exigences, mais sans se soucier sur le plan pratique si ces exigences seront possibles à être réalisées. Et c'est pour cela que moi, je voudrais vous dire que nous devons regarder les choses un peu au-delà de ce que nous entendons comme discours, pour dire que c'est une bonne chose d'assurer une certaine sécurité juridique de l'exploitation, mais je crois que cette sécurité juridique de l'exploitation ne pourra en principe se concrétiser que lorsque on aura intégré un ensemble des problèmes qui sont sur le terrain et que, à mon sens, n'ont pas été bien examinés de façon profonde. Si vous regardez aujourd'hui la plupart des sociétés qui ont été retenues, vous verrez qu'il y a très peu de sociétés à capitaux congolais qui sont là-dedans. Je ne fais pas de discrimination en cette matière, étant donné que moi-même j'ai des partenaires étrangers. Mais je pense que aussi nous devons tenir compte de ces aspects des choses, parce que si on veut que ce pays se développe, il faudrait qu'il y ait des nationaux qui soient dans le secteur des investissements. Et il faut leur trouver, évidemment, je ne dirais pas des particularités, mais il faut leur trouver aussi un certain nombre d'allégements pour leur permettre d'émerger. Parce que aujourd'hui, on sait que, par exemple, le secteur de l'exploitation forestière exige des gros capitaux. Et aujourd'hui, avec les déficits que nous avons des financements dans notre pays, il est souvent exclu que les nationaux trouvent les facilités que les étrangers ont.
Je vous cite l'extrait d'un article de l'ONG Greenpeace paru le 11 avril 2007. Greenpeace a obtenu des copies de contrats passés entre ces sociétés et les communautés. Certains de ces contrats offrent des cadeaux tels que des sacs de sel et des bouteilles de bière pour une valeur totale de moins de $100 en échange de droits de coupe valant des centaines de milliers de dollars. Selon des membres de ces communautés, les promesses de construction d'écoles ou d'hôpitaux sont rarement tenues. Certains témoins attestent également de manœuvres d'intimidation pour étouffer toute protestation. Apparemment, il y a une véritable guéguerre entre les ONG qui sont dans l'environnement et vous, les exploitants forestiers.
Je pense, mon cher ami, les rapports de Greenpeace, je les ai toujours analysés avec beaucoup de réserves. Ben, il faut qu'on arrive à comprendre que dans ce pays ici, et dans notre environnement, il y a des enjeux. Il faut comprendre ces enjeux-là pour essayer de mieux pénétrer certains discours qui sont tenus, où l'on veut montrer qu'on est plus apitoyé au sort des populations autochtones, quoique en soi, on ne fait rien pour eux. Si vous demandez aujourd'hui à Greenpeace quel est son siège ici dans le pays, qu'est-ce qu'il a comme réalisation sociale ici, vous allez justement comprendre beaucoup de choses. En d'autres termes, je voudrais dire ceci, que ici, lorsqu'on parle des cahiers et des charges, il faut que les gens comprennent que dans les anciennes dispositions, ce que les sociétés remettaient aux populations locales, c'était des cadeaux, en fait, ce qu'on appelle des droits coutumiers. C'était plus ou moins ça. C'est maintenant que la législation est en train d'établir des types de cahiers des charges, et là, on est dans une nouvelle conception de l'exploitation forestière.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez affirmer que les populations autochtones se retrouvent dans l'exploitation de leurs forêts?
Mais dans la nouvelle approche, dans la nouvelle vision de l'exploitation forestière, les populations locales devront se retrouver. Parce que là, il ne s'agit pas de traiter avec seulement des individus, mais on rentre dans une conception plus globale. C'est pour cela qu'il y aura des cahiers des charges du type qui vont intégrer un ensemble d'exigences et qui feront que les populations locales pourront se retrouver par rapport à l'investissement qui se fait. Il faut pas, les gens ont tendance à faire de la confusion dans notre pays. Les forêts, tel que le dit le code forestier, appartiennent à l'État. Ce qui fait que les sociétés traitaient avec l'État, ils payent des impôts à l'État, ils payent un ensemble de taxes. Je vous ai dit, il y avait presque 173 taxes à l'État. Et cela était pratiquement au détriment parfois des populations locales. Aujourd'hui, en réduisant cette pression fiscale sur les entreprises, ça leur permettrait vraiment de mieux s'occuper un peu d'un certain nombre d'exigences sociales au niveau des populations locales. Mais lorsqu'on parle de bouteilles de vin, ça, ce sont des cadeaux qui sont donnés à quelques coutumiers. On ne peut pas dire au lycée de la vérité qu'il y a par exemple 1913 km de route des recettes agricoles qui ont été quand même construites, même si quelque part ces sociétés les utilisent, mais elles servent aussi à ces populations. Et que c'est parmi les rares entreprises qui permettent aujourd'hui de desservir l'arrière-pays. Ça, on ne le dit pas. Les écoles qui ont été construites, on ne le dit pas. Et on a tendance aujourd'hui à diaboliser l'exploitation forestière, mais il y a des objectifs. Parce que je vous ai dit, par rapport à la forêt congolaise, il y a des agendas cachés. Il faudrait que nous arrivions à les pénétrer. Nous devons savoir, vous l'avez si bien dit, qu'après l'Amazonie, il y a le massif du bassin du Congo, qui aujourd'hui constitue le deuxième poumon de l'humanité. Par rapport au deuxième poumon de l'humanité, il y a des attentes vis-à-vis de ça. Et ça, Greenpeace ne le dit pas. Il faut que les pays du Nord sachent que les pays du Sud, puisque nous sommes des pays soi-disant sous-développés, sous-développés en réalité, ne doivent pas jouer aujourd'hui à des fonctions bénévoles par rapport à l'humanité sans contrepartie. Ça serait même, à mon sens, ce n'est même pas humaniste ou humanitaire. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il faut que si le pauvre joue à une fonction, il faut le rémunérer. Et il faut rémunérer nos forêts. Ce discours qu'on a assez entendu par le ministre, il faut que l'on dise ça. Donc on parle maintenant du crédit carbone. Il faut qu'on sache qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette fonction de poumon de l'humanité pour essayer de réduire la pauvreté. I'm not
nous allons clôturer cette émission, Florentin Cagué. Comment voyez-vous l'avenir du secteur forestier en RDC, brièvement?
C'est un avenir qui, à mon sens, je ne dirais pas dubitatif, mais c'est un avenir qui peut se résumer, je dirais, d'une façon assez... Je le dis parce que il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux par rapport à la forêt. Et vis-à-vis de cela, il est tout à fait normal que vous compreniez que, selon que l'État congolais aura compris l'intérêt qu'il peut tirer de la forêt, cela dépendra évidemment de l'avenir de cette exploitation.
Florentin Cagué, merci d'être passé à Grand Témoin.
C'est à moi de vous remercier.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Florentin Cagué, Moinzita, président de la Fédération des industriels du bois et président du conseil de gestion de la société Parc Afrique, à la technique et à la réalisation Sylvain Baogueri, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Louisa, dans la province du Cassé occidental et partout dans le monde.